RFI 8h à Paris, 7h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal de Jeanne Bartoli. D'abord, comment l'administration Trump m'a envoyé ses plans de guerre par erreur?
Voilà le titre d'un article publié par le rédacteur en chef d'un magazine américain. Le journaliste a été ajouté par erreur par des hauts responsables américains de la sécurité dans un groupe de discussion sur le réseau Signal, groupe où a été divulgué le plan des frappes américaines au Yémen. Histoire à peine croyable et scandale à Washington. Les démocrates évoquent une débâcle, récit dans ce journal. Un dialogue utile qui va se poursuivre. La Russie évoque des discussions intenses avec les Américains à l'issue de pourparlers indirects hier sur la guerre en Ukraine. Dans ce journal aussi, reportage dans un hôpital de Gaza qui tente de faire face à l'afflux de blessés depuis la reprise des bombardements israéliens. Le dossier de ce 8h nous emmènera en Syrie. On parlera de l'avenir des Kurdes de Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Et puis Gérard Depardieu, jugé depuis hier à Paris pour agression sexuelle, journée d'audience extrêmement tendue. Vous entendrez les avocats des plaignantes et de l'acteur français.
L'affaire fait scandale aux États-Unis.
Avec déjà des appels à des enquêtes pour déterminer les responsabilités d'une fuite à peine croyable. Le 13 mars dernier, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic s'est vu ajouter à un groupe sur la messagerie cryptée Signal, groupe intitulé Outils PC Small Group, dans lequel figurait parmi les plus hauts responsables américains de la sécurité. Pendant plusieurs jours, ce journaliste a assisté à des échanges et à des partages de documents ultra confidentiels sur des frappes américaines au Yémen, ce qu'il a raconté dans un article publié hier à New York, le récit de Loubna Naki.
Interrogé par les journalistes, Donald Trump dit n'être au courant de rien. Pourtant, l'affaire secoue Washington depuis la publication lundi matin d'un article de The Atlantic titré « L'administration Trump m'a envoyé ses plans de guerre par erreur ». Dans cet article, le rédacteur en chef du prestigieux magazine raconte comment il a été ajouté le 11 mars à un groupe de discussion sur la messagerie Signal. Faisait partie de ce groupe une quinzaine de membres du gouvernement, y compris Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, J.D. Vance, le vice-président, et Marco Rubio, le chef de la diplomatie. Durant quelques jours, écrit Jeffrey Goldberg, je vois défiler les messages. Le 15 mars, le secrétaire à la défense partage le plan détaillé de raids aériens imminents contre les Houthis au Yémen. Les armes utilisées, les cibles, les horaires. Le journaliste confie que jusqu'au moment où les frappes ont commencé, 2 heures plus tard, il avait de réels doutes sur la crédibilité de ce groupe. Ces révélations ont provoqué de vives critiques, notamment dans le camp démocrate, a commencé par le sénateur Chuck Schumer.
C'est l'une des fuites de renseignements militaires les plus stupéfiantes que j'ai lues depuis très très longtemps.
Il dénonce notamment l'utilisation d'une application non sécurisée pour évoquer des opérations militaires ultra confidentielles. Certains élus réclament désormais une enquête. De son côté, la Maison-Blanche affirme que le président Trump a la plus grande confiance dans son équipe de sécurité nationale. Loubna Naki, New York, RFI.
Et cette affaire, on y revient juste après ce journal à 8h15 dans la revue de presse internationale avec Frédéric Couteau. À la une également ce mardi, Jeanne, le Kremlin qui fait l'éloge des négociations d'hier avec les États-Unis.
12 heures de négociations à huis clos pour tenter d'arracher une trêve partielle en Ukraine. C'est en tout cas le souhait de Donald Trump. Nous avons parlé de tout. C'était un dialogue intense, pas facile, mais très utile pour nous et pour les Américains. Voilà ce qu'a déclaré ce matin l'un des négociateurs russes, Grigory Karasin, à l'agence officielle TASS. Nous allons continuer de le faire, assure l'ex diplomate qui ajoute souhaiter intégrer l'ONU au pourparlers. L'Ukraine avait également discuté cette fois dimanche avec la délégation américaine et le tout premier objectif de Washington dans ces discussions, Franck Alexandre, c'est de parvenir à une trêve maritime en mer Noire où se joue une importante guerre navale.
Grâce à ces 3 ports de la région d'Odessa, l'exportation de céréales ukrainiennes fonctionne à plein régime. Des exportations quasi équivalentes à celles d'avant-guerre. Et pour y parvenir, l'Ukraine a réalisé un véritable exploit naval. Sans même disposer d'une marine de guerre, elle est parvenue à mettre en échec la flotte russe en envoyant par le fond 24 unités, dont certaines majeures, comme le croiseur Moskva, les navires amphibies Yamal et Azov, le patrouilleur le plus récent, le Sergei Kotov, et même un sous-marin, le Rostov-sur-le-Don, qui était en cale sèche à Sébastopol. Au total, le tiers de la flotte russe de la mer Noire a été détruit. La véritable innovation est venue comme sur le champ de bataille terrestre, de l'utilisation intensive des drones avec les célèbres Magoura, vedettes téléguidées, lestées de 800 kilos d'explosifs. L'un de ces drones a même réussi à parcourir 800 kilomètres avant de frapper le César Kounikov, navire de débarquement près de la base navale de Novorossiysk, située au nord-est de la mer Noire. Un véritable coup de Trafalgar pour la marine russe.
Franck Alexandre, spécialiste défense sur RFI.
Le syndicat des journalistes palestiniens dénonce un nouveau massacre contre les journalistes à Gaza.
Une frappe israélienne a tué hier le journaliste Hossam Shabat qui travaillait pour le service arabophone de diffusion en direct d'Al Jazeera. La Croix-Rouge a, elle, dénoncé hier une attaque contre ses locaux à Rafah. Attaque qui n'a pas fait de blessés. L'armée israélienne qui multiplie les bombardements. Et les hôpitaux ne sont pas épargnés. Dimanche, une frappe avait visé l'hôpital Nasser, tuant deux personnes, dont un membre du bureau politique du Hamas. Selon l'OMS, sur les 36 hôpitaux de Gaza, seuls 17 seraient encore partiellement fonctionnels. Reportage de Rami Al-Megari à l'hôpital Al-Mamadani de Gazaville avec Sami Boukhalifa, Jérusalem.
Une grande salle dans laquelle s'entassent des dizaines de patients. Samir veille sur son oncle, 66 ans, atteint par des éclats à la tête suite à un bombardement la semaine dernière.
Il avait une hémorragie, mais grâce à Dieu, les médecins ont réussi à la stopper. Il souffre également d'une fracture au bras. Ils lui ont posé des broches. Il était en soins intensifs, mais ils nous ont dit qu'il ne pouvait pas rester ici. Donc ils l'ont descendu dans cette pièce.
On est éloigné.
Le docteur Ahmed Alaaddin le reconnaît. En situation normale, le patient aurait dû passer quelques semaines en service de soins intensifs. Mais pas le choix. Trop de blessés, pas assez de lits, il faut faire le tri.
Sa blessure à la tête est très sérieuse. Il a besoin d'un suivi, mais on n'a que 3 lits en soins intensifs. Et en plus, on a des blessés. On doit gérer les patients qui souffrent de différentes pathologies.
Une situation encore aggravée par la fermeture des points de passage vers Gaza. Selon l'UNICEF, 180 000 doses de vaccins infantiles et 20 respirateurs artificiels destinés aux nouveau-nés y sont bloqués depuis début mars par Israël. Rami Al-Mirali, Gaza, Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne annonce avoir de nouveau frappé des bases militaires en Syrie.
En l'occurrence, 2 bases dans le centre du pays, au lendemain d'une mise en garde de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en déplacement en Israël. Elle a mis en garde contre une nouvelle escalade. La Syrie, où les nouvelles autorités continuent d'être confrontées à de très nombreux défis. Et l'un de ces défis, c'est celui de l'intégration de la région du nord-est du pays, actuellement contrôlée par les Kurdes. C'est l'objet du dossier de ce 8 heures. Avec vous, Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Ces dernières semaines, Oriane, les événements se sont succédés avec notamment la signature d'un accord entre Damas et les forces démocratiques syriennes menées par les Kurdes.
Oui, on l'a appris dans le prolongement de l'un des points de bascule de ces dernières semaines pour tous les Syriens, y compris pour les Kurdes. Le massacre de plus de 1200 alaouites sur la côte syrienne par des milices sous l'autorité de Damas. 4 jours plus tard, donc, a été signé l'accord qui prévoit d'intégrer la région du nord-est syrien, dominée par les Kurdes, à la Syrie. Une manière pour le président intérimaire Ahmad al-Shara d'absorber la colère de la population syrienne et de montrer sa volonté d'intégrer et de protéger toutes les composantes du pays. Pour les autorités kurdes, c'est une victoire car face à l'urgence, Ahmad al-Shara a fini par céder sur certains points.
Et alors concrètement, qu'est-ce qui va être mis en place ?
En fait, ce texte est surtout un accord de principe sur une intégration progressive des forces démocratiques syriennes et des institutions de l'administration autonome du nord-est syrien. Il y a encore de nombreuses questions auxquelles répondre et surtout en particulier l'avenir des combattants kurdes. On en vient à un autre événement donc clé aussi de ces dernières semaines, l'appel au désarmement du PKK par le chef du mouvement Abdullah Öcalan depuis sa cellule turque.
Alors Oriane, on parle là de l'actualité du pays voisin, la Turquie, avec cet accord censé mettre fin à 40 ans de guerre entre Ankara et le Parti des travailleurs du Kurdistan.
Oui, en fait, il faut garder en tête que les zones d'habitation kurdes s'étalent sur un territoire aujourd'hui divisé entre la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Les mouvements et partis politiques kurdes ne s'arrêtent donc pas aux frontières des pays. Dans le nord-est syrien, c'est justement la branche locale du PKK qui a réussi à mettre en place une région autonome avec une force armée, les FDS. Ces dernières ont affirmé ne pas être concernées par l'appel au désarmement du PKK. De son côté, Ankara exige leur démantèlement total. Damas a choisi choisi la voie des négociations pacifiques avec les FDS, mais l'un des premiers prérequis pour les autorités de transition est donc d'arriver à garantir les droits et la sécurité de la population kurde. C'est donc une histoire en cours d'écriture.
Oriane Verdier, merci du service international d'RFI, dossier du 8h que vous retrouvez sur RFI.fr.
Et on reste en Syrie cette prochaine demi-heure. Reportage de Manon Chaplin dans l'une des très nombreuses usines de captagon découvertes dans le pays après la chute de Bachar al-Assad. Rendez-vous à 7h20. Jeanne, on parle aussi ce matin de ces coupes budgétaires américaines qui inquiètent l'ONU.
L'ONU SIDA, en l'occurrence, qui agite le spectre du retour d'une pandémie mondiale si l'aide américaine n'est pas rétablie. Lors d'un point presse à Genève, sa directrice exécutive, Winnie Binyama, a tiré la sonnette d'alarme. Elle met en garde contre une recrudescence massive de la maladie, notamment chez les jeunes filles sur le continent africain.
Si l'aide américaine contre le VIH n'est pas rétablie après la pause en avril et qu'aucun autre financement ne vient combler ce vide, et jusqu'ici, aucun gouvernement ne s'est engagé, alors dans les 4 prochaines années, 6,3 millions de personnes pourraient mourir du sida. En 2023, on comptait déjà 600 000 décès. Ce chiffre pourrait être multiplié par 10. On prévoit également 8,7 millions de nouvelles infections supplémentaires. Cela signifie perdre tout le progrès réalisé au cours des 25 dernières années. Et à plus long terme, la pandémie de sida pourrait revenir en force, non seulement dans les pays à faible revenu en Afrique, mais aussi dans des régions comme l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Nous allons assister à une véritable recrudescence de cette maladie, telle qu'on l'a connue dans les années 90 et 2000, avec des gens qui mouraient faute de traitement.
Winnie Banimia, directrice exécutive de l'ONU SIDA, qui appelle donc l'administration Trump à revenir sur sa décision. Propos recueillis par Christina Okello. Au Japon, à présent, elle était dans le collimateur de la justice depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en 2022. Un tribunal de Tokyo ordonne que la secte Moon soit privée de toute reconnaissance légale. Elle a émis ce matin un ordre de dissolution de cette église de l'unification fondée en 1954 en Corée du Sud. La mesure révoque son statut d'organisation religieuse.
Les ventes de Tesla s'effondrent en Europe depuis le début de l'année.
Moins 49% sur un an au mois de janvier et de février par rapport à l'an dernier. Impossible de ne pas y voir en partie les conséquences du comportement d'Elon Musk, patron de Tesla, devenu proche collaborateur de Donald Trump. Les immatriculations de véhicules à moteur électrique, la spécialité de la marque américaine, ont pourtant progressé dans l'ensemble de l'Union européenne de près de 30%.
RFI 8h13 à Paris, l'actualité en France. C'est la première journée hier du procès de Gérard Depardieu.
Le comédien de 76 ans est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste sur deux femmes lors d'un tournage du film Les Volets Verts. C'était en 2021. Première journée très tendue hier, alors même que le fond des débats n'a pas été abordé. Après avoir longuement plaidé l'annulation de toute procédure, Maître Assous, avocat de Gérard Depardieu, a demandé de nouveaux actes d'enquête.
Je n'ai jamais vu de plaignantes qui refusent et qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu de cesse de vous dire que ces accusations sont mensongères et inexactes. Si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Tout cela, elles le refusent. Tout élément objectif, incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignants. Il n'y a qu'une seule raison pour cela, c'est qu'elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes.
Maître Assous, écoutez la réponse de l'avocate des plaignantes. Maître Claude Vincent, elle dénonce des manœuvres de la défense pour tenter de gagner du temps.
Vous avez bien vu ce qui s'est passé, on a assisté à manœuvre dilatoire sur manœuvre dilatoire. Sous prétexte de plaider des conclusions de nullité, on a plaidé 1h46 sur le fond du dossier. Il n'y a aucun respect du contradictoire, ce qui fait que nous ne sommes jamais destinataires des éléments de la défense, d'accord, que ce soit les conclusions, les pièces, voilà. Et par ailleurs, en fait, il y a quand même une chose dont il faut avoir conscience, c'est que tout ce qui est dit de l'autre côté de la barre est faux. C'est factuellement faux, ça ne correspond pas au dossier que nous on a entre les mains, qu'on travaille depuis des mois. Donc oui, au bout d'un moment, si vous voulez, on perd un petit peu patience.
Et Maître Claude Vincent au micro de Laura Martel et de Bertrand Éclair. Et puis un mot de football avec la suite hier de la 6e journée de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. 8 matchs étaient au programme. Résultat nul et vierge entre le Mali et la République centrafricaine. Victoire du Burkina Faso 2-1 en Guinée-Bissau. Victoire aussi du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les résultats complets, ce sera bien évidemment dans le journal des sports.
Et ce sera à 8h42 avec Antoine Grenier. On va aussi parler des matchs au programme. Merci Jeanne Bartoli. Il est 8h15 à Paris, 7h15 en temps universel. Merci à vous de nous écouter. Dans un quart d'heure, le retour de l'info africaine. Mais d'abord à suivre le reportage de la rédaction. On part en Syrie ce matin et ensuite on va parler de la visite de la deuxième dame américaine au Groenland, la femme de J.D. Vance. D'abord, on jette un œil ensemble sur la presse internationale. Et ce matin, Frédéric Couteau, les journaux se font l'écho de cette grosse boulette de l'administration américaine.
Oui, Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du site d'information Atlantico, n'en revient toujours pas. Il y a 10 jours, samedi 15 mars, peu avant 14h, l'aviation américaine bombarde des cibles houthis au Yémen. Et, raconte-t-il, je savais, 2 heures avant que les premières bombes n'éclatent, que l'attaque allait avoir lieu. Pourquoi ? Eh bien, poursuit-il, parce que Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, m'avait envoyé à 11h44 un message par l'application Signal sur le plan d'attaque, un plan qui comprenait des informations précises sur les armes utilisées, les objectifs et le calendrier de l'opération.
Et comment un journaliste a-t-il pu être directement informé d'une opération top secret ? Pour l'instant, une enquête est en cours.
Toujours est-il que c'est une énorme bévue sécuritaire qui fait beaucoup jaser à Washington, s'exclame l'hebdomadaire français Le Point sur son site internet. Non seulement les plus proches lieutenants de Donald Trump ont utilisé l'application Signal pour discuter d'une opération militaire à venir au Yémen contre les Houthis, mais ils ont également inclus, sans s'en rendre compte, donc le rédacteur en chef du magazine The Atlantic dans leur groupe.
Frédéric Couteau, pour le Washington Post, c'est manifestement un manquement stupéfiant à l'obligation d'assurer la sécurité d'une opération qui peut mettre les forces américaines en danger.
Oui, un laxisme tel que les identités des membres de ce groupe de discussion n'étaient même pas vérifiées, à tel point donc qu'un journaliste est passé entre les mailles du filet. Heureusement pour l'administration et les forces américaines, l'ajout à cette liste du rédacteur en chef d'Atlantico n'a pas eu de conséquences néfastes, mais pointe encore le Washington Post, mais qui peut dire quels autres acteurs auraient pu être inclus dans ce groupe ou dans d'autres ? Comment savons-nous que personne n'a accès au compte Signal ou au téléphone des utilisateurs inclus ? Ce n'est pas pour rien que les téléphones portables ne sont pas autorisés dans la salle de crise de la Maison-Blanche.
Au sein de l'appareil de défense, rapporte pour sa part le Süddeutsche Zeitung, on parle d'un faux pas choquant.
L'échange d'informations sur les services de renseignement sur une plateforme non autorisée par le gouvernement pourrait constituer une violation des lois anti-espionnage, assure le quotidien allemand. Jack Reed, le plus haut responsable démocrate de la commission de la défense du Sénat, estime qu'il s'agit là de l'erreur la plus monstrueuse qu'il ait jamais vue. Certains républicains d'ailleurs ont également exprimé des critiques. Et dire, ironise le quotidien allemand, et dire que les proches de Trump impliqués dans cette affaire s'indignaient encore récemment des soi-disant manquements des démocrates en matière de sécurité. Le Süddeutsche Zeitung rappelle que le ministre de la Défense, Pete Hegseth, avait autrefois en tant que présentateur sur Fox News, critiquait Joe Biden lorsque des dossiers secrets avaient été trouvés dans son garage. Et il avait d'ailleurs aussi défendu Donald Trump, qui avait entreposé des caisses de documents secrets dans des pièces annexes de son club à Mar-a-Lago.
À la une également, sueur froide au Groenland. C'est la une de Libération à Paris.
Cette semaine, le Groenland reçoit tour à tour le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz, arrivé hier, un proche de Donald Trump, et après-demain, la femme du vice-président J.D. Vance, Usha Vance. Officiellement, il s'agit d'assister, relève Libération, à la grande course nationale de chiens de traîneau et de découvrir la culture locale. Mais personne n'est dupe, s'exclame le journal. Moins de 3 mois après avoir fait publiquement part de son intention d'annexer le Groenland, ce que beaucoup avaient pris comme un de ses nouveaux délires, Donald Trump envoie ses émissaires en repérage sur place, pointe encore Libération. Les Groenlandais sont inquiets face à ce hold-up, mais ils ont tellement souffert de la colonisation danoise qui continue à peser sur leur économie comme sur leur mental, qu'ils ont vu dans les déclarations de Trump le moyen de s'affranchir de la tutelle du royaume ou au moins de négocier avec Copenhague une coopération d'égal à égal.
Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse internationale sur RFI et on en reparle dans deux minutes du Groenland avec Ottilia Ferré, notre correspondante en Scandinavie. Restez avec nous. En Syrie, depuis la chute de Bachar al-Assad, ce sont des dizaines d'usines de production de captagon qui ont été découvertes à travers la Syrie. Cette amphétamine qui se revend ensuite dans tout le Moyen-Orient et dont le régime syrien déchu avait fait sa source de revenus principale au point de devenir un narco-État. Les nouvelles autorités syriennes et le président par intérim Ahmed al-Shara sont déterminés à tout changer et à combattre ce commerce illicite. Manon Chapelin s'est rendu dans une ancienne usine de production en Syrie. Reportage.
Dès l'entrée du hangar, l'odeur des produits chimiques prend au nez. À terre traînent encore des dizaines de gants en plastique, des masques et lunettes de protection, une balance rouillée sur laquelle reposent des plaquettes de hashish, des sachets de captagon. Dans la zone, les usines de production ont été récupérées début février des mains des milices chiites du Hezbollah au terme de violents combats.
À l'intérieur de l'usine, on a bien sûr trouvé du captagon, toutes sortes de pilules et de drogues, mais aussi beaucoup d'armes, des armes à feu.
Depuis Zakaria Mahmoud Abdelkader et son unité, des soldats rattachés à l'administration en charge des frontières ont repris le contrôle de la zone. Wadiana, c'est son nom, quelques kilomètres de territoire coincé dans un mouchoir de poche à la frontière libanaise. Les milices chiites du Hezbollah y travaillaient de concert avec le régime de Bachar al-Assad pour y produire du captagon.
Chaque bâtiment que vous voyez autour de vous était une usine de production. Nous avons tout fermé, ainsi que les points de passage à la frontière. C'est désormais plus compliqué de faire du trafic.
Dans les villages alentours, les habitants sont encore terrorisés, témoigne une habitante qui a souhaité rester anonyme.
On veut que le nouveau gouvernement nous protège. Les milices continuent de nous menacer. Ils nous appellent, nous envoient des messages, nous disent qu'ils vont nous tuer et nous égorger si nous parlons.
Nous avons essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Celui qui parle, je lui marcherai sur le cou sur la place du village.
Dans le sud de Damas, le quartier de Roukneddine était l'un des plus touchés par le trafic. Des centaines de jeunes ont été poussés à la consommation jusqu'à sombrer dans l'addiction. Le régime les utilisait ensuite pour cibler l'arrestation de certains opposants, explique un commerçant du quartier.
Parfois, quand le régime cherchait à arrêter quelqu'un en particulier, il lui fouillait tout simplement les poches et mettait du captagon à l'intérieur. Ensuite, il l'emmenait au poste. Dans le quartier, les gens devenaient fous à cause de cela.
Avec les années, la violence a fini par gangréner ce quartier. Le Hezbollah, qui appuyait le régime dans ses combats contre les zones rebelles, venait y chercher de nouvelles recrues. Ce même commerçant a fait partie d'une de ces milices durant 2 ans.
Le Hezbollah avait l'habitude de donner à ses soldats une certaine quantité de captagon dans un petit sac. Le mot d'ordre était « consommer, puis combattez ». Les pilules qui n'étaient pas consommées étaient conservées puis revendues ici, dans le quartier.
Des rondes sont désormais organisées dans les ruelles de Roukneddine par le service de sécurité générale du nouveau gouvernement. Impossible de totalement l'arrêter, mais le trafic a largement diminué, explique Ahmed Djatoubouch, en charge de la sécurité.
Les trafiquants n'ont plus autant de pilules à disposition qu'avant. C'est donc devenu plus difficile de vendre. Les policiers essayent également de sensibiliser les habitants sur le danger de ce trafic.
Au plus fort de sa production, en 2021, le marché du captagon en Syrie était estimé à plus de 10 milliards de dollars. Manon Chapelin à Damas, RFI.
Damas où il est 10h23. Pour le président américain, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une démarche amicale. En tout cas, elle fait réagir cette visite à venir de la deuxième dame des États-Unis, Usha Vance. L'épouse de J.D. Vance, vice-président américain, sera au Groenland à partir de jeudi jusqu'à dimanche et elle s'y rend en compagnie du conseiller à la sécurité nationale du président et du ministre de l'énergie. Une visite qui, évidemment, éveille les soupçons et fait réagir, on le disait, après les très nombreuses déclaration de Donald Trump concernant le territoire, cible des velléités expansionnistes du président américain. Bonjour Ottilia Ferré.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans les pays scandinaves et vous couvrez aussi bien sûr l'actualité du Groenland, territoire autonome mais sous autorité danoise. Alors, côté groenlandais, Ottilia, comment réagit-on à ce projet de visite ?
Alors évidemment, bien, cette annonce elle a semé le trouble, comme on peut s'en douter. La deuxième dame des États-Unis s'est en quelque sorte, complètement, on peut le dire, invitée au Groenland. Mutegede, le premier ministre de l'île arctique, estime que cette visite est, je cite, « très agressive, pas du tout innocente et constitue une ingérence étrangère et une démonstration de force ». Ça fait des mois, on peut le dire des années, qu'il observe Donald Trump lorgner sur son territoire et on peut comprendre qu'il ne soit pas franchement emballé par cette visite surprise. Il a précisé qu'il n'y aura aucune rencontre. On rappelle que Donald Trump a menacé une nouvelle fois, pas plus tard que le 4 mars dernier, de s'emparer de l'île d'une manière ou d'une autre, et ce pour la sécurité internationale.
Alors, Otilia, que vient faire Usha Vance au Groenland ?
Eh bien, du tourisme, à en croire la Maison Blanche, et pour célébrer la culture et l'unité groenlandaise, c'est ce qu'ajoute l'administration Trump. Moment fort du séjour, la course nationale de chiens de traîneau au Groenland. Usha Vance serait apparemment une grande passionnée. Outre cette compétition, il est prévu qu'elle visite de jeudi à dimanche des sites historiques et qu'elle apprenne l'héritage groenlandais. Elle sera accompagnée de son fils et d'une délégation américaine.
Et cette visite n'a évidemment rien d'anodin, Otilia.
Alors non, pas du tout. Le premier ministre groenlandais l'a dit lui-même. Surtout pendant que la deuxième dame des États-Unis fait du chien de traîneau, Mike Wiles, le conseiller américain à la sécurité nationale, et Chris Wright, le secrétaire américain à l'énergie, se rendront sur une base militaire américaine dans le nord du Groenland. Difficile donc de parler de coïncidence, surtout à un moment critique pour le Groenland, territoire donc autonome danois, qui est en pleine négociation en vue de former une coalition gouvernementale. Après la défaite de Mutegede aux élections législatives, le nouveau Premier ministre sera probablement Jens Frederik Nielsen. Lui non plus, comme 85% des Groenlandais, n'a aucune intention de devenir américain. Ses visites impromptues, y compris celle de Donald Trump Jr. en janvier dernier, tendent encore un peu la situation. Et pour le chef de la diplomatie danoise, ça montre, entre guillemets, un appétit inapproprié des Américains.
Merci Otilia Ferré en direct avec nous ce matin. Respirer, c'est évidemment vital, pourtant c'est souvent mauvais pour la santé. Pourquoi ? Eh bien, c'est notre question d'environnement du jour, alors que s'ouvre aujourd'hui la deuxième conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé organisée en Colombie par l'ONU. Pauline Glaise, vous nous dites d'abord que cette pollution est généralisée.
Oui, 99% de la population vit dans des zones où la qualité de l'air ne respecte pas les seuils de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les grandes coupables, les particules fines, des corps qui mesurent moins de 2 microns et demi, des particules ultra fines, moins de 0,1 micron, et puis tout un tas de gaz viennent polluer l'air, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, ozone de basse altitude. Et la pollution atmosphérique, eh bien Andréane, elle tue, selon l'OMS, plus de 4 millions de personnes en meurent chaque année. Cela monte à plus de 8 millions en 2021, selon le State of Global Air. Si l'on ajoute l'impact de la pollution de l'air intérieure, par exemple par la cuisson au bois. Mais il existe des disparités géographiques, c'est ce que souligne Tanushree Ganguly de l'Air Quality Life Index.
Les gens qui vivent dans les régions où l'air est le plus propre vivent 2 ans et demi de plus que celles qui vivent dans les régions les plus polluées du monde. Les personnes qui vivent au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Pakistan perdent plus de 3 ans et demi de leur vie parce qu'ils sont exposés à un air vicié. Même dans les pays dont on ne parle pas autant comme l'Ouganda ou l'Arabie Saoudite, les gens perdent plus de 2 ans d'espérance de vie.
Pauline, quelle maladie la pollution de l'air provoque-t-elle ?
Alors, on trouve évidemment des maladies respiratoires, mais pas seulement. Les pics de pollution peuvent favoriser des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Et à long terme, Isabella Anesima Esano, épidémiologiste à l'INSERM, liste d'autres problèmes de santé.
Au-delà de problèmes respiratoires, on a des problèmes cardiovasculaires. Donc, encore une fois, le cœur est atteint. Le cerveau aussi, et quand on parle du cerveau, on a aussi des maladies neurodégénératives. Et puis, ça va plus loin avec le diabète, avec certains cancers. Et quand les mères sont exposées pendant la grossesse, on a un risque de prématurité et petit poids du nouveau-né.
Alors cela s'explique par la petite taille des particules. Les plus fines peuvent franchir la barrière des alvéoles, c'est là où se font les échanges gazeux dans nos poumons. Et ils se retrouvent donc dans le sang et peuvent toucher tous les organes. Quoi qu'il en soit, la meilleure solution en termes de prévention, c'est de réduire les émissions de polluants quand c'est possible. Il ne faut pas oublier que des particules dans l'air peuvent aussi avoir une origine naturelle.
Merci Pauline Glaise, c'était la question d'environnement sur RFI, à retrouver tous les matins sur notre antenne. Restez avec nous dans une minute le journal.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Voodoo Game. Thomas Sidibé.
Thomas Boufarafine en a offert. L'enfant béni de la Tiabougou et Rajamé. D'ailleurs, Oshila, n'était bougé, Havata.
RFI Musique.